à Rencontre spirituelle aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la mort, il y a à peine quelques années, d'un martyr québécois, un frère de l'instruction chrétienne, le frère François Cardinal, qui a été assassiné à 50 ans. Un religieux d'origine québécoise, donc assassiné au Rwanda, qui a été victime de son dévouement, qu'il croyait être complètement en dehors des questions politiques, mais son travail auprès des pauvres l'a fait mourir de façon violente, comme tant d'autres religieux et religieuses et laïcs aussi, chrétiens, au cours de ce siècle. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je m'inspire en particulier d'un texte du frère Gaston Boucher de la même communauté des frères de l'instruction chrétienne. Le frère François Cardinal est né le 21 octobre 1942, tout près de l'aéroport Mirabel aujourd'hui, à Saint-Benoît. Et il est mort donc le 29 novembre 1992. Le frère Boucher écrit que l'Institut des frères de l'instruction chrétienne a connu parmi les siens des frères qui ont fait honneur par leur distinction et aussi par leur civisme et aussi par leur charité naturelle, des confrères avec lesquels il faisait bon vivre et que chacun souhaitait voir sur la liste de sa petite communauté locale. L'Institut des frères de l'instruction chrétienne a aussi eu ses nationalistes et patriotes, comme on devrait dire peut-être, qui ont donné parfois héroïquement vraiment leur vie pour la patrie dans bien des pays. Chez les frères de l'instruction chrétienne, on a compté surtout des éducateurs illustres et fameux, qui ont marqué des générations de jeunes, des religieux que la fidélité amoureuse de leurs règles a conduit loin sur les chemins de la sainteté. Le comté aussi des missionnaires, que leur fidélité amoureuse en tout leur a permis de partir pour des pays parfois très éloignés, pour faire connaître là-bas l'Évangile, connaître Jésus-Christ, faire aimer Jésus-Christ et faire vibrer leur cœur du même amour que le Christ a pour son Père. Mais peut-être jamais encore la congrégation, dit le frère Boucher, n'a-t-elle compté dans ses rangs un martyr, un membre, dont la générosité, vraiment c'est une générosité extraordinaire, vous allez voir, est allée jusqu'à verser son sang pour défendre les pauvres, les exploiter, les opprimer. C'était, comme je vous l'ai dit, le 29 novembre 1992. Ça rappelle la parole de leur fondateur, Jean-Marie de Lamennais. L'abbé Jean-Marie de Lamennais disait, peu de temps avant sa mort, « Alors je l'aime tant, cette bonne providence, que je veux me laisser dévorer par elle, à la vie, à la mort, je la bénirai. » Le frère François Cardinal est né, comme je vous ai dit, dans la municipalité de Saint-Benoît. C'est dans le comté des Deux-Montagnes, n'est-ce pas? C'est à quelques kilomètres d'Oka, au fond, de la fameuse trappe d'Oka. Et donc, le 21 octobre 1942, apparaît cet enfant, troisième de la famille qui va en compter neuf. Son père, Léopold, cardinal, cultive une terre qu'il prend plaisir à agrandir. Il lui faut nourrir, évidemment, cette famille nombreuse. Le travail ne lui fait pas peur. Et son épouse, Noëlla Grand-Maison, est tout aussi vaillante que lui. C'est une bonne chrétienne qui éduque bien ses enfants. Un jour, à la suite de la visite à l'école Saint-Benoît, de la municipalité de Saint-Benoît, là, visite du frère Louis-Georges Paquin. Vous vous souvenez peut-être, les gens plus âgés, de ses frères recruteurs, on les appelait recruteurs, donc un frère recruteur des frères de l'instruction chrétienne d'Oka, Eh bien, François Cardinal, en l'écoutant, se sent interpellé intimement. Il est tout jeune, c'est un enfant. Ces religieux sont établis dans un édifice assez spacieux et assez fonctionnel à Oka, justement. Alors le jeune François obtient l'autorisation de ses parents de partir à 12 ans et pour poursuivre ses études dans cette institution. Il fait donc son entrée le 28 août 1955. À 12 ans, on est timide, souvent. Mais ça n'empêche pas le jeune François Cardinal de s'acclimater à son nouveau milieu. Alors il se crée des amis. Et depuis, bien, le sport l'intéresse beaucoup. C'est un sportif. Ça va être un grand bonhomme. Il va mesurer plus de 6 pieds. Les études l'intéressent aussi, mais il trouve, lui, qui est un jeune travailleur de la ferme, que le travail manque, le gros travail comme à la maison, avec son père sur la ferme. Alors les vacances arrivées, ce jeune fils de cultivateur n'aime pas tellement l'idée de rester au collège pour s'amuser avec les autres, avec les jeunes qui viennent de la ville en particulier. Alors il sait depuis bien des années déjà que les mois de juin, juillet et août sont les plus importants sur une ferme. Mais c'est le règlement de rester au noviciat, alors. Les jeunes garçons venus de la ville, eux, se considèrent au contraire bien favorisés de passer de belles vacances occupés, entre guillemets, à la campagne. Alors, François Cardinal, un peu plus tard, est transféré dans une autre maison des frères de l'instruction chrétienne, soit à La Prairie, pour y poursuivre ses études. Il s'y adonne volontiers. Il réussit bien. C'est le frère Henri Blais, son formateur à cette époque, qui déclare « Le jeune homme est perçu comme un postulant calme, serein et pondéré en tout. » Un postulant, c'est quelqu'un qui postule, qui demande son entrée au sein d'une congrégation ou d'un ordre religieux, un postulant. Donc, le jeune homme est perçu comme un postulant calme, serein et pondéré en tout. Le sourire se reflète sur cette figure expressive que la timidité fait facilement rougir. Toute sa vie, ce sera là une de ses caractéristiques. Et naturellement peu bavard, il est discret, il est sympathique et toujours considéré comme un bon travailleur méthodique. Il a une intelligence pragmatique. Ça, il faut se souvenir de ça. C'est un jeune homme déjà, qui dénote qu'il est pragmatique, c'est-à-dire les choses concrètes, l'organisation, faire des choses. C'est pas un homme d'études, ce sera pas un grand professeur plus tard. Donc, il a une intelligence pragmatique au point que, justement, la poésie et la spéculation ne sont peut-être pas son fort, termine le frère Henri Blais. En 1961, il a presque 19 ans. Son père, M. Cardinal, exige la présence de son fils sur la ferme au cours des dernières vacances avant l'entrée décisive au noviciat. Le noviciat, c'est la période, je vous le rappelle, qui succède au postulat et qui prépare à émettre des promesses, des engagements, ce qu'on appelle des vœux pour la vie, ce qu'il fera à 26 ans. Alors le frère Henri Blais, toujours directeur du postulat, doit s'y résigner. Il aimait beaucoup ce jeune homme. Et le 15 août 1961, c'est l'entrée au noviciat au Mont Lamennais, à Oka. Dès les premiers mois, ce novice s'adonne minutieusement sa formation religieuse. Alors là, c'est beaucoup plus sérieux sur le plan spirituel, hein? La prière le pénètre. Une pacification aussi qui l'envahit. Et il édifie les autres par sa fidélité à la règle, puis la générosité. Une grande sérénité, c'est une de ses grandes qualités, la sérénité. Et tout ça, bien, lui permet vraiment de construire sa vie religieuse. On pourrait se demander si au cours de cette année, il a été question d'une éventuelle désir de devenir missionnaire. Car durant ce temps-là, dans les entretiens personnels, il est plutôt question, chez le jeune frère François Cardinal, de l'appréhension qu'il ressent face à l'enseignement. Ça lui l'attire pas, ça. Et pourtant, il est entré dans une congrégation où on enseigne. Le supérieur le réconforte souvent, ce jeune religieux. Il l'assure que Dieu va arranger les choses pour qu'il soit heureux un jour. Dieu s'occupe de notre bonheur, pourvu qu'on lui fasse confiance. Un bon enseignement. Et au cours, il avait bien raison ce frère, hein? Et au cours de cette année, le règlement prévoit des périodes de travail manuel qui ne lui répugnent pas du tout, Alors l'année canonique, la période d'un an du noviciat, est terminée et le frère François fait sa profession religieuse. Il a 19 ans, c'est sa première, il y a presque 20 ans. C'est sa première profession. C'est une profession qu'on appelle temporaire. Il promet temporairement pour comme un premier essai. C'est sérieux, se consacrer continuellement toute sa vie dans une congrégation ou un ordre religieux pour servir dans le célibat l'humanité et servir Dieu d'abord. Il retourne donc à la prairie pour y faire son école normale et donc devenir professeur. Et plusieurs années, 3 ans exactement, particulièrement studieuse, là, il se prépare. Oui, il se prépare à acquérir les diplômes d'enseignement. Un frère, le frère Robert Gonneville, qui a vécu 6 années de formation avec lui, dit du frère François Cardinal, et c'est amusant, j'aime bien ce petit texte. François est un bon joueur de volley-ball. Ça va de soi. Il mesure 6 pieds et quelques pouces. Oui, 6 pieds et quelques pouces pour un jeune Canadien français, un jeune Québécois, c'est extraordinaire. Il excelle également au hockey. S'il est reconnu comme délicat pour les petits, il est solide et capable de faire sentir sa robustesse face aux grands. Le frère Robert le décrit comme un confrère très engagé déjà. Tout entier, autant dans sa formation religieuse que professionnelle. Donc, c'est quelqu'un de concret. Au mois d'août 65, son départ définitif des maisons de formation pour l'enseignement. Et le frère François Cardinal quitte la prairie. Il enseigne tout d'abord au coin des rues Saint-Denis et Beaubien, en plein cœur de Montréal, à l'école de Lamennais. Ça ne lui plaît pas. Il s'ennuie en plein cœur de la ville. Il n'aime pas tellement l'asphalte. Et les élèves n'ont pas tellement de motivation. Il est déçu, donc. Une seule consolation, c'est la présence du frère Florent Dulude, assistant directeur de cette école, qui aide les débutants, qui les soutient quotidiennement. Le nouveau provincial, le frère Roger Provost, son ancien maître au noviciat, juge qu'il ne faut pas prolonger davantage son séjour à Montréal, où il ne se plaît pas. Et à cette période, il décide de rénover en profondeur le personnel de l'autre école de Lamennais, celle de Mascouche. Alors, il est envoyé à Mascouche. Les classes terminées, les confrères se retrouvent en communauté, ils se sentent heureux. Ils le montrent et le frère François se plaît à Mascouche. Les élèves, plus faciles, plus studieux, lui redonnent de l'intérêt pour la profession d'éducateur. Puis les frères de Mascouche s'engagent volontiers dans les loisirs sportifs de la ville de Mascouche. Ils jouent au hockey, à la balle, et le frère François, il fait bonne figure. Ce sont des jeunes Québécois consacrés, incarnés dans le milieu, et qui savent dynamiser la jeunesse. Le frère François sollicite au cours de l'année scolaire 68 la faveur de s'engager définitivement dans la congrégation des frères de l'instruction chrétienne. On imagine facilement qu'un tel geste d'un des leurs apporte une grande joie dans la communauté locale. Tout le monde est heureux de ça, car tout le monde l'aime. Et la célébration a lieu à Oka le 29 juin 1969. Il a 26 ans. Les frères de l'instruction chrétienne ont fondé en 1968 une mission au Rwanda, en Afrique centrale. Et lors d'un sondage écrit, on invite ceux parmi les frères qui sont prêts à s'engager. Imaginez, 31 frères, dont le frère cardinal, ont signé, ont donné leur nom. Alors le frère François, lui, est choisi pour aller au Rwanda et quelques semaines après sa profession perpétuelle, il part pour l'Afrique. Une fête est organisée à Mascouche. Le tout se déroule bien fraternellement à l'école de Lamennais de Mascouche. Et encore cette fois, la jeune communauté est emballée. Tout le monde est heureux, mais pleure un peu peut-être. Et le départ se réalise au début du mois d'août 1969. Alors donc, notre frère François Cardinal est parti pour le Rwanda, en Afrique, comme vous savez tous. Le collège Inyemera Mihigo de Gessigny, c'est le premier lieu d'apostolat des frères de l'instruction chrétienne au Rwanda. Mais c'est là qu'on retrouve le frère François en septembre 1969, l'année même de l'ouverture de cette institution scolaire. Il a donc presque 27 ans. Dans les débuts, tout est à faire. C'est le défrichement, l'aménagement des terrains de jeu. C'est surtout la rénovation des bâtiments qui ont été laissés à l'abandon. Alors les frères, qui viennent d'arriver, veulent évidemment les rendre convenables et un peu plus décents. Alors que de nettoyage, que de peinture. Et tout cela pour des jeunes, pour des pauvres, qui ne demandent que la chance d'étudier. J'ai vu ça en Afrique. C'est extraordinaire de voir les jeunes Africains, le désir qu'ils ont d'étudier quand les frères s'occupent d'eux. J'ai vu des collèges, moi, tenus par des frères, justement, de l'instruction chrétienne au Cameroun. C'était merveilleux. Il faut voir ça, hein. C'est très émouvant. Et que de frères heureux, joyeux et dynamiques. Hein. Alors, notre nouveau missionnaire s'engage, il se sent heureux, et dans le fond, il a trouvé ce qu'il cherchait depuis le début de sa carrière professionnelle. Alors, il enseigne avec plus de facilité, peut-être un peu plus d'intérêt, sûrement plus de satisfaction. Il n'y a pas de discipline à faire, il aime ses nouveaux compatriotes. Il est prêt à tout faire pour eux, il ira jusqu'à la mort. Il est professeur, donc, de géographie, de mathématiques, c'est sa matière préférée. Mais il ne tarde pas à découvrir que dans ce pays, à 95% agricole à cette époque, il faut trouver des moyens de développer sérieusement et systématiquement le secteur agricole puis l'élevage. Alors il commence tout modestement par un petit élevage de lapins. Il en a alors une vingtaine. Tout ça va grandir. L'année 1973, c'est une année bien pénible pour le Rwanda. Une période qu'on a appelée les événements. C'est une guerre tribale, encore la même chose que ce qu'on vient de voir. Il en souffre. Il a mal à son amour pour ce peuple. Ce sont des moments difficiles et des heures dangereuses. Il pense à donner sa vie, qui sait. Et à la suite de ces événements, bien l'œuvre de Jessigny, dont je vous ai parlé, est cédée à des autochtones, des Rwandais. Alors des jésuites rwandais prennent la relève en 1974. Et les frères continuent à enseigner sous cette nouvelle direction des jésuites rwandais. Alors le frère François, lui, va travailler avec le frère Raoul au camp de Mayangé, dans le Bugesera. Et le frère Joseph Bourgeois signale que tous les deux vont mettre en marche, imaginez, un camp de formation des jeunes, qu'on disait délinquants. Et très rapidement, le frère François Cardinal et son confrère sauront se faire respecter et aimer des jeunes, Ils réussiront à les intéresser au travail agricole sur une propriété qui avait été concédée par les autorités militaires pour des fins éducatives. Et là aussi, bien, le frère François progresse dans l'art de pratiquer l'agriculture et l'élevage intensif. C'est un agriculteur né, et c'est un apôtre. Et pendant ce temps, va se fonder l'œuvre de Rambura, répondant aux besoins du pays, aux attentes du nouveau gouvernement. Alors là, les frères de l'instruction chrétienne, pour cette raison, vont mettre en marche une école de formation agricole, l'école agricole et artisanale de Rambura. Et le conseil de la mission va choisir de favoriser le regroupement des frères dans cette œuvre. Et c'est ainsi que les frères de l'instruction chrétienne vont se retrouver en nombre de plus en plus grand à Rambura, autour d'une école que le chef de l'État lui-même va considérer comme une sorte d'école pilote dans le domaine de la formation de la jeunesse paysanne. Vous voyez ce que font ces jeunes Québécois là-bas, des jeunes frères? Comment se fait-il qu'il n'y a pas des milliers de jeunes Québécois qui savent pas quoi faire de leur vie, qui n'ont pas le goût de la consacrer dans des congrégations dynamiques qui font un travail si magnifique? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Alors les frères retrouvent à Rambura une autre œuvre bien généreuse. Les jeunes ont besoin des frères, alors ils y vont. Les frères François, cardinal, et son confrère, le frère Raoul, se joignent aux frères Gérard Parisien et Romain Dudemaine. Je donne les noms au cas où vous porteriez vous-même ces noms de famille, vous connaîtriez ces frères. Alors ils se joignent pour se donner pleinement à la formation de ces jeunes qui n'avaient pas pu avoir accès aux études secondaires. Et là, le frère François Cardinal, fils de cultivateur, est dans son élément. Il commence à épouser la cause paysanne. Alors il assure un suivi aux cours agricoles chez les familles des jeunes en formation. Et son but, c'est quoi ? c'est surtout de les encourager à créer du neuf, à se prouver à eux-mêmes que par un travail constant et minutieux, il est possible, oui, possible d'envisager un avenir prometteur et heureux, sortir de la pauvreté et de la misère et s'épanouir. Et déjà à cette époque, le frère François Cardinal met sur pied un service de commercialisation des produits agricoles, oui, oui, qui proviennent du travail des élèves, tant sur les petites terres de l'école que sur celles de la maison. Ce sont des parcelles de terre. Alors, au niveau de la communauté, très tôt, les confrères du Rwanda élisent le frère François membre du conseil de la vice-province. Il ne le regrette pas, il se réjouit à plusieurs reprises de son sens des négociations dans des circonstances internes et très délicates. Et en tout temps, on admire le leadership du frère François Cardinal, son jugement, son adresse dans les relations interpersonnelles. Alors, voilà qu'il lui faut une année de ressourcement. Car les frères se ressourcent spirituellement. Ressourcement spirituel à Rome, sous la direction experte du frère Vincent Guillerme. C'est une redécouverte pour lui, sous un nouvel angle de la congrégation. On fait des pèlerinages aux besoins en Palestine. Et puis, on séjourne à Rome. On va à la grande retraite de la Trappe, en France, la Trappe de Soligny. Tout ça, ce sont des grands moments de grâce pour ces frères qui ont besoin de ressourcement spirituel. Ce sont aussi des temps de repos un peu, et surtout, ce sont des temps de profonde réflexion et d'engagement personnel. Le frère Joseph Bourgeois déclare, au sujet de cette période, en 1979, alors que les frères de l'instruction chrétienne sont fortement sollicités par le régional des Pères Blancs, le père Dominique Maillet, pour prendre en charge le centre de formation rurale de la jeunesse de Boutamois, eh bien le frère François accepte de faire l'expérience de l'année de ressourcement spirituel offert chaque année par la congrégation des frères de l'instruction chrétienne à Rome. Il ajoute, je me souviens qu'à son retour de ce second noviciat, le frère François accepte de partager son expérience spirituelle avec les jeunes qui vont faire un pas décisif, eux, dans l'engagement au service de Jésus-Christ. Et le frère François Cardinal n'est plus tout à fait le même à son retour de Rome. Il y a une maturité plus grande qui va lui permettre de relever un grand défi. Quoi? Se préparer à prendre la direction d'un centre qui jouit d'une excellente réputation à travers tout le pays. Un centre qui reçoit annuellement plus de 200 jeunes provenant de tous les coins du pays. Un centre qui a pour mission de redonner espoir à de nombreux jeunes qui n'ont pas eu la chance ou la fortune de poursuivre des études au niveau secondaire. Alors, fortifié par une fructueuse période de contact avec le Christ, marqué par ses années de service de la jeunesse à Gisenyi, au Moutara et à Rambura, François part donc très confiant à Boutamois, B-U-T-A-M-W-A, Boutamois, pour y vivre d'abord un long temps d'apprivoisement du centre, qui est alors dirigé par un père blanc, le père Irénée Jacob. Et c'est au cours de cette année de transition que les autorités des frères de l'instruction chrétienne décident de prendre la responsabilité de la gérance du centre, ce qui va se faire officiellement en 1981. Et là, l'année 1981 en est une qui marque les décisions, des prises de responsabilité qui vont marquer la vie du frère François Cardinal. C'est une dernière charnière. Alors, au sujet de Boutamois, les 13 années qu'il y vivra le combleront à tous les points de vue. Il va y déployer son zèle pour un savoir-faire, une ingéniosité incomparable, déclare le frère Gabriel Lauzon. Il se montre un digne fils du principal fondateur des frères de l'instruction chrétienne, Jean-Marie de Lamennais, dont je vous ai parlé au début. Ce centre met à la disposition des gens une caisse d'épargne qui est ouverte 3 jours par semaine. C'est là aussi qu'ils peuvent se procurer des papiers de correspondance, des enveloppes, des timbres, des médicaments pour enrayer la malaria. Le magasin du centre, qui est ouvert aussi 4 jours par semaine, on y trouve de la farine, de maïs, toutes sortes de choses. C'est un centre pour relever, matériellement, mais aussi spirituellement, ces pauvres gens qui sont des éleveurs, qui ont des poules, peu de choses, mais finalement, grâce à tout ça, sortiront de la misère avec le souci constant d'amour du frère François Cardinal. Donc, je poursuis, le frère François Cardinal est jeune, et relativement jeune. Son organisme est très solide, sa santé est bonne, dépense beaucoup d'énergie, tant physique que psychique. Le fond d'ambition de ce chef d'âge mûr le pousse à agrandir le centre, à le faire rayonner et à étendre la commercialisation des produits au Rwanda. Cette vente des produits encourage les jeunes Rwandais en stage et assure un standard de vie de plus en plus souhaitable. En 1991, lors de son dernier voyage au Canada, le frère François Cardinal doit être hospitalisé. Il connaît une rechute d'une vilaine malaria qui a été mal soignée avant de quitter l'Afrique. Une première peut-être, mais elle est assez forte, sa maladie. Depuis des décennies, il ressent des maux de dos et des malaises à la colonne vertébrale. C'est une partie faible de son organisme. Et lors de ce dernier voyage, il accepte très volontiers d'adresser la parole aux frères de l'instruction chrétienne de la maison provinciale de la Prairie, qu'il connaît bien, où il a fait son noviciat. Il les entretient sur l'œuvre du Rwanda en général, et sur celle de Boutamwa en particulier, où il réside, où il travaille. On sent à l'abondance de son enthousiasme, de sa verve, on sent bien l'intérêt qu'il porte à son pays d'adoption et ce souci de la justice pour les pauvres. Et son amour aussi de ses confrères frères. Je suis un peu répétitif, mais je le dis quand même. Ses confrères frères. Avec, il a une affection plus particulière pour les confrères autochtones, ces jeunes frères qui ont décidé de se faire frères de l'instruction chrétienne. Oui, il y a des vocations là-bas, des jeunes courageux qui répondent. Et l'on sait d'ailleurs que depuis de nombreuses années, les aspirants et les postulants passent par Boutamwa, où le frère cardinal travaille, ce qui est profitable au centre de formation, puis au niveau confrère. C'est le frère Joseph Bourgeois qui déclare « Je voudrais souligner la préoccupation vocationnelle qu'a toujours manifestée François Cardinal pendant ses 13 années de service dans ce milieu. Dès qu'il s'est senti en mesure de bien mener le centre, notre confrère accepte volontiers d'ouvrir les portes aux jeunes de Rambura d'abord, puis de Jisenyi par la suite, pour favoriser le dépistage et l'accompagnement de futures vocations religieuses. Et que d'aspirants sont passés par Boutamwa à moi pour y exercer leur désir de servir Dieu et d'aider leurs frères. Dès l'année 1982, le centre héberge six novices, rwandais et zaïrois, pendant les 2 mois des grandes vacances. Après s'être assuré du sérieux des objectifs recherchés par la direction du noviciat, François Cardinal a tout fait pour faciliter la tâche de ses confrères, malgré l'exiguïté des lieux. Les novices ont eu l'occasion de voir une communauté vraiment impliquée dans le service des moins nantis de la société et de profiter du grand savoir-faire du frère François Cardinal dans le domaine agricole. Et le frère qui écrit ce texte ajoute « Je me souviens de l'avoir entendu me dire, sa fierté de pouvoir, tout en servant les paysans, participer activement à la préparation d'une relève africaine d'apôtres sensibles aux besoins des plus démunis. Non, François n'était pas qu'un spécialiste en agriculture et en développement. Il faisait aussi, en lien étroit avec la congrégation des frères de l'instruction chrétienne, une œuvre d'église. Ainsi, à partir de septembre 82, le frère François Cardinal allait connaître chaque année la joie de pouvoir partager sa vie religieuse et apostolique, non plus seulement avec des compatriotes québécois, mais aussi avec des jeunes confrères rwandais. Pendant les 11 dernières années de sa vie, il va exprimer à sa façon, car c'était pas l'homme à privilégier les discours, il va exprimer sa joie de vivre avec des confrères rwandais. délicatesse, mots d'encouragement, intérêt pour les richesses culturelles rwandaises. Et c'est souvent à l'occasion des réunions régulières du conseil de la vice-province que le frère François Cardinal montre le mieux son vrai et réel souci pour la préparation d'une relève rwandaise dans la famille des frères de l'instruction chrétienne. Spontanément, il apporte sa contribution et celle de son centre, dont il a les commandes, pour favoriser la préparation sur le terrain de nouveaux candidats qui demandent à entrer dans cette merveilleuse communauté fondée par Jean-Marie de Lamennais. Alors le service de l'animation des jeunes constitue un moyen privilégié de mieux connaître les aspirants à la vie de frère éducateur, car c'est une très belle vie, la vie de frère éducateur, quand elle est bien comprise. Quelle plus grande vocation que celle d'éduquer, de transformer, de rendre heureux des jeunes gens, des jeunes filles, mon Dieu. Et réciproquement, ces jeunes profitent de cette expérience qu'il a pour découvrir très concrètement la beauté puis les exigences de la vie de ses disciples de Jésus-Christ dans la famille des frères de l'instruction chrétienne au Rwanda. Alors là, les gens de bout en bout ont tellement eu l'habitude de voir les jeunes animateurs au service des stagiaires en lien étroit avec les frères qui les accompagnaient dans leur cheminement, qu'ils les appelaient déjà à ce stade des frères. Et le 26 novembre 1992, il écrit à sa mère et il donne des nouvelles sur la situation qui prévaut dans le pays. Je vous en donne un petit extrait. « Dans le pays, dit, écrit le frère François Cardinal, les moindres réserves de haricots, de soja et de maïs sont vides suite à deux mauvaises saisons, février et juillet 92. Et les 500 000 personnes déplacées de guerre ne produisent pas faute de terrain, mais mangent quand même. Le riz ne manque pas, mais coûte très cher. Un autre problème s'annonce pour les paysans producteurs. On peut donc prévoir la désorganisation de cette culture en expansion. Et malgré le contexte un peu difficile, nous essayons de continuer à former des jeunes paysans. » Ah, c'est terrible. Deux jours plus tard, il écrit, le 28 octobre, je n'ai pas pu me rendre à Gisigny. Les paysans avaient bloqué la route la veille pour réclamer les sommes dues depuis 4 ans pour l'expropriation de leur terrain. Puis il ajoute que la route de la bière vers la capitale est restée bloquée pendant plus d'une semaine. Les paysans n'ont pas cédé aux promesses des autorités comme dans le passé. Ils ont eu gain de cause. Ils se sentent plus forts devant les injustices. Et la nuit du 29 au 30 octobre, une bande de 20 bandits armés, écrit le frère François, armés de grenades, a œuvré près de notre centre. Les paysans ont supplié à l'autorité en tuant 6 de ces bandits. Ils sont à la recherche des autres. Et il ajoute, c'est un roman trop long pour que je le décrive. Le frère Paul pourra vous en parler. Oh, la Providence est là pour nous protéger. La Providence est là pour nous protéger. Il termine en disant, aux frontières, les canons se sont tus. Mais certains militaires quittent l'armée pour faire de la politique. Les vraies raisons qui ont amené la guerre font surface aussi longtemps que l'injustice demeure, que l'argent est le seul Dieu de l'homme, le seul Dieu de l'homme. Le respect et le pardon sont difficiles. Malgré le contexte un peu difficile, nous essayons de continuer à former des jeunes paysans. Alors il prend donc parti pour les paysans, les pauvres, les opprimés du régime. Il fait à l'occasion savoir aux autorités les injustices criantes qui affectent le petit peuple. Il condamne les agissements malhonnêtes, il dénonce certaines attitudes et même certaines législations et à l'occasion les oppressions dont il est témoin. Il proteste. Il a une foule d'amis, mais il se fait parfois beaucoup d'ennemis, hein? Et l'étau se resserre autour de ce religieux défenseur des droits des pauvres. L'appât de l'argent, le spectre de la dénonciation, lequel des deux, ou bien les deux, suscite depuis quelque temps des soucis, alors on le sent menacé, on le prévient. Son sens de la justice a peine à se résigner, ce qu'il croit être la connivence de sa part s'il se tait. Et dans les 3 ou 4 derniers mois, lui-même commence à se sentir menacé. Et le frère Robert Gonneville fait part de ce qui suit. J'étais avec François en juin et août 1992, quelques mois avant sa mort, à Boutamoi et à Kigali. Nous avons échangé sur les projets, sur la communauté, sur le centre de jeunes et sur les menaces qui circulaient à son égard. Il aurait pu revenir au Canada. Il savait très bien ce qu'il faisait en restant sur place et en continuant son travail et son action pour les agriculteurs, les jeunes du centre et les gens de la région de Boutamoi. Il savait très bien ce qu'il risquait. Et le frère François est menacé. Le frère François se fait à l'idée. Il en fait même allusion à ses intimes. À l'occasion, il fait part de sa prise de conscience. Dans les dernières semaines, des bandits voleurs de grands chemins s'organisent pour avoir de l'argent et ainsi se procurer des armes. On est mis au courant d'un plan bien structuré en 5 étapes. Alors, les deux premières sont réalisées. Alors on devine que la prochaine, c'est le bourgmestre, puis le centre où l'organisation espère avoir gros prix. Il est bien possible que des gens agacés par la droiture et l'efficacité du frère François Cardinal dans le domaine où il est vraiment un maître incontesté aient souhaité son élimination, ou tout au moins son éloignement des lieux. En quelque chose est certaine, c'est que le frère François Cardinal jouissait d'une très grande popularité dans toute la région de Kigali. Tout le monde connaissait le frère Cardinal, et en fait, il confie M. Léon Gonneville, l'agent responsable de Proveda au Rwanda, dans les derniers jours de novembre, exactement le vendredi 27 novembre, que ses jours, ses heures peut-être sont comptées. Oui, ses heures étaient comptées. Et le dimanche 29 novembre, à 20h, il quitte son bureau, quand 6 voleurs bandits, embusqués, l'assassinent. Il est criblé de balles, des balles de gros calibre. Il est mort. Le frère François Cardinal est mort. Mais l'avoir tué, est-ce trop? Peut-être que les bandits réalisent qu'ils sont allés trop loin pour que le plan soit vraiment et pleinement réussi, puisque le frère François Cardinal, terrassé, assassiné, ils ne parviennent pas à voler tout ce qu'ils espéraient, ils ont laissé toutes sortes de choses. Alors l'ambassade du Canada au Rwanda rejoint les autorités de la communauté des frères de l'instruction chrétienne à la prairie, le dimanche même, quelques heures après l'assassinat. Et sa pauvre mère, Madame Cardinal, est prévenue par l'entremise du frère Paul Latraverse, confrère du frère François Cardinal à Boutamoi. Et cette femme, sa mère, réagit en vraie chrétienne. Et elle décide avec un courage admirable de prévenir elle-même chacun de ses enfants. Et pendant qu'au Rwanda ont lieu des funérailles, l'administration provinciale des frères de l'instruction chrétienne organise à la prairie, pour le samedi suivant, 5 décembre 1992, une messe commémorative. Le frère Gabriel Lauzon, vice-provincial au Rwanda, organise les funérailles, il rencontre le nonce apostolique et l'archevêque de Kigali, Mgr Vincent Nsengiyumba, pour fixer la messe de Requiem dans la capitale, et on s'entend pour le mercredi 2 décembre à 9h, et les témoignages de sympathie ne cessent d'affluer, et les funérailles sont effectivement célébrées à Nyamirambo, à Kigali quoi, en présence de plus de 1000 participants, dont d'une 40aine de prêtres concélébrants autour de Mgr l'archevêque et de Mgr le nonce apostolique et plusieurs ambassadeurs et membres des différents consulats et dignitaires du gouvernement rwandais. Et un grand nombre de religieux et religieuses sont aussi présents et participent à cette messe. Je vous parlais des funérailles de notre frère. Oui, ils portent le nom de frère parce qu'ils sont nos frères. Le frère François Cardinal. Et l'homélie, là-bas, au Rwanda, est prononcée par le frère Gabriel Lauzon. Elle est traduite en Kinyarwanda par le frère Ildefonse Ntamitondero. En voici quelques passages. C'est très beau. Le frère François Cardinal était pour l'ensemble des paysans de Boutamoi un véritable roi. Vous savez, le mot roi, là-bas, c'est pas la même chose qu'ici. Il faut connaître l'Afrique. Un véritable roi. Et cela, il le rendait bien à ses protégés parce qu'il n'avait que ces mots à la bouche. Le développement des paysans. Les paysans. Les paysans. Le respect de la dignité du paysan, qui n'est pas un être de seconde classe, et la justice sociale furent aussi son cheval de bataille. Il a combattu contre vents et marées pour cette dignité paysanne. Son témoignage de religieux engagé au service de la dignité humaine des paysans et de la justice sociale, nous le recevons comme le plus bel héritage qu'il nous ait laissé. Il a été fauché alors qu'il était en pleine capacité physique, morale, spirituelle et religieuse. Le Québec, le Canada perd en lui un fils de choix. Et le Rwanda aussi un fils adoptif aimant et dévoué à la cause du développement dans ce pays, spécialement à la jeunesse rwandaise. Et voici les belles paroles, je les cite, du nonce apostolique, on pourra dire, un ambassadeur du Vatican, qu'est-ce qu'ils ont donc à dire, ces hommes couverts de rouge, des croix pectorales et des mitres, etc. Oh, n'allons pas si vite, ces hommes sont souvent des hommes bien plus près de l'Évangile que nous, qui ne portons rien et aucune décoration. Monseigneur, le nonce apostolique a bien dit à la fin de la messe quelque chose de percutant. En voici quelques extraits. C'est très beau. Le pardon chrétien ne nous empêche pas de condamner ce meurtre atroce et de demander que la justice humaine puisse faire une lumière claire et transparente sur lui. Mais ici, avant que le frère François Cardinal quitte pour toujours les lieux, ces jeunes et ces paysans pour lesquels il avait été un vrai frère, dans le sens le plus profond du mot, partageant leur vie, leurs souffrances, leurs espoirs, en reprenant un peu ce que le vice-provincial disait, je voudrais vous demander que nous tous, nous recueillions le message de sa vie. Et écoutez bien, ça c'est superbe. Je ne vous en lis qu'un extrait. C'est le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape. Comme lui, mettons-nous au service des plus pauvres pour les aider à prendre conscience de leur dignité d'homme. Comme lui, n'ayons pas peur de nous ranger du côté de ceux qui souffrent à cause de l'injustice. Comme le Christ, le frère François, a offert sa vie pour ce pays qui était devenu sa patrie. Comme le Christ, le frère François, a offert sa vie. Le samedi 5 décembre 92, dans la chapelle de la maison provinciale de la Prairie, où le frère François Cardinal a prié et a posé des gestes engageants pour son cheminement chrétien et religieux, il y avait un grand nombre de ses confrères, de membres de sa famille, des amis, des sympathisants qui se sont réunis pour célébrer une Eucharistie commémorative en l'honneur de ce martyr, de ce saint, je crois, tombé pour les siens. Les pauvres, les paysans, les opprimés de ce pays pourtant hospitalier, chaleureux, qu'est le Rwanda. La célébration a commencé par la lecture d'un texte du frère Bourbonnais, Roch Bourbonnais, provincial, qui se veut un hommage de la communauté aux confrères martyrs pour la cause des petits, des paysans et des opprimés à bout à moi. Je vous en lis une partie, c'est superbe, superbe, le frère Roch Bourbonnais, voici ce qu'il dit. Le frère François Cardinal a été arraché par une mort brutale à l'œuvre éminemment évangélique qu'il avait bâtie. Il donnait à manger à ceux qui ont faim, en leur apprenant comment vivre des produits de la terre. Il donnait aux humbles la dignité de la compétence. Sa communauté et sa famille pleurent sa disparition. Toute cette population rurale qu'il guidait et instruisait s'inquiète de l'avenir du centre de formation agricole. Son départ crée un vide et compromet l'une des belles réussites de la coopération avec les peuples d'Afrique. Cependant, nous ne voulons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous voulons puiser dans sa vie, dans sa mort, des raisons d'espérer, des exemples de courage dans l'action apostolique et éducative. Le Dieu qu'il a servi est un Dieu qui triomphe du mal. C'est un Dieu ressuscité qui a vaincu la mort. Nous voulons oublier ce drame pour conserver le souvenir de l'œuvre et de celui qui l'a créé. Nous voulons oublier la haine brutale des coupables, pour ne retenir que le dévouement de ce fils de cultivateur, qui avait reçu en partage l'amour de la terre, et qui a su transmettre cet amour aux paysans du Rwanda. Le frère François Cardinal nous interpelle. Il a su admirablement développer ses talents pour les mettre au service des plus démunis. Il nous montre combien un homme animé d'un grand zèle peut changer le monde, là où sa vocation le porte. Il avait fait sienne cette terre du Rwanda. Il y repose maintenant. Il a beaucoup semé durant sa vie. Puisse sa mise en terre devenir la plus féconde de toutes les semences, celle qui fait germer des êtres humains fraternels, libres et dignes, là où les haines et l'absurde violence empoisonnent le monde, des hommes comme toi, François, redonnent des raisons de croire et d'espérer des jours meilleurs. En te voyant, dans ta vie comme dans ta mort, on continue de croire qu'il y a dans l'homme plus de beauté que de laideur, plus de fraternité que de méchanceté. Ce très beau texte est du frère Roch Bourbonnais, provincial, des frères de l'instruction chrétienne. Quand j'entends parler contre les frères, ça m'enrage. Dans l'office des lectures de la nuit prochaine, on fait lire dans toute l'église aux prêtres et à tous ceux qui veulent bien réciter le bréviaire ce texte de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Oui, il est puissance de Dieu. Celui qui ne porte pas sa croix, dit-on plus loin, on le répond après la lecture, celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple, dit le Seigneur. Fixant son regard sur Jésus qui passait, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Cher frère François Cardinal, pour ma part, je ne doute pas que vous soyez au ciel. Dans ce monde de l'invisible qui est tout près de nous, nous sommes plongés dedans. Assistez les frères de l'instruction chrétienne. Guidez vers la congrégation des frères de l'instruction chrétienne, des jeunes gens pleins de courage et d'audace. Ici même, pourquoi pas? Tout est possible. Après avoir atteint le vide et le néant, pourquoi ne remplirait-on pas leur cœur du désir de vous suivre? Nous vous prions de le demander à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.